It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Salut à tous, deuxième journée à Roland-Garros, une journée marquée, rythmée même par l'entrée en lice de Roger Federer. On a tous attendu sagement jusqu'à 16h pour voir le Suisse et on n'a pas été déçus, un Federer en jambes qui s'est imposé en 3-7. On devait en parler, mais est tombée une breaking news, Naomi Osaka se retire du tournoi. Alors on va évidemment en parler avec nos acolytes du jour, Camille Pin, Bertrand Millard et Laurent Vergne. Salut à tous les trois, comment ça va?
Salut à tous.
Ouais. On évoquera également les Night Sessions dans le podcast Terre débattue, dans la question qui fâche. Puis nous analyserons la stat de constance du compte Twitter Je sais tes maths avant de se pencher sur l'affiche à ne pas rater mardi. C'est parti pour Terre débattue. Alors, le débat du jour, c'est la breaking news. C'est tombé aux alentours de 20h. Naomi Osaka a décidé de se retirer du tournoi. Elle a publié un communiqué sur ses réseaux sociaux pour faire part de sa décision. Elle a expliqué qu'elle ressentait beaucoup d'anxiété avant de se rendre sur chaque conférence de presse. On en a beaucoup parlé tout au long de la journée d'hier, tout au long de la journée d'aujourd'hui. Quel est votre sentiment sur cette décision de Naomi Osaka, Laurent ?
Très surpris, j'avoue que je ne m'y attendais pas du tout. Quand on a entendu le fait qu'elle avait, quand on nous a dit Naomi Osaka a publié un communiqué, moi j'ai naïvement pensé qu'elle allait dire bon, finalement, ok, je vais faire ces fameuses conférences de presse, pas de problème. Donc c'est pas du tout ça, c'est quand même une décision radicale. Elle va au bout de ses intentions, c'est-à-dire que voilà, pour elle, il y a un problème et elle considère que la seule solution, c'est de se retirer. Donc c'est quand même un cas, à mon avis, inédit. Enfin, moi j'ai jamais vu ça en grand chelem ni dans un autre tournoi pour ce type de raison en tout cas. Pendant le débat qu'on avait eu au sujet d'Osaka, moi je disais que j'aurais trouvé navrant qu'elle soit exclue du tournoi. Donc je trouve navrant qu'elle s'exclue elle-même du tournoi. Elle emploie à nouveau des mots qu'elle avait employés quand elle avait annoncé qu'elle ne ferait pas de conférence de presse pendant Roland-Garros, c'est-à-dire elle parle de grandes vagues d'anxiété au moment de se présenter devant la presse. Alors, visiblement, elle a un très, très gros problème avec ça. Moi, autant je suis d'accord sur le fait que je suis très ouvert sur la question des conférences de presse et je pense qu'il doit être possible de réformer ce système d'une manière ou d'une autre, même si je n'ai pas la solution miracle. En revanche, ce que Naomi Osaka ressent par rapport à ça me semble être vraiment un cas très isolé. C'est-à-dire, ou alors, il y a d'autres joueurs qui à ce point-là, je vois Bertrand qui n'est pas d'accord, mais des joueurs qui ressemblent… les termes qu'elle emploie sont tellement forts. Et si, pour elle, les deux options, c'est jouer sans faire de conférence de presse ou ne plus jouer, parce que là, on en est là, je trouve ça quand même assez dramatique. Je ne suis pas sûr qu'il y ait, que ce soit un phénomène répandu, en tout cas dans ces proportions-là. Donc là, l'ampleur du problème est telle que, autant on peut trouver des solutions peut-être globalement pour cette histoire des conférences de presse et le rapport joueur-média, mais pour régler le problème de Naomi Osaka, je ne vois pas bien ce qu'on peut faire pour l'aider.
Elle explique à ressentir des grandes vagues d'anxiété avant de se rendre dans chaque conférence de presse. Elle explique qu'elle met souvent, on la voit souvent avec un casque sur les oreilles. C'est justement pour essayer d'être dans sa bulle, de s'isoler un peu du monde extérieur. On a vraiment l'impression, elle explique clairement un vrai problème physique et mental.
Non, mais pour avoir déjà interviewé Naomi Osaka, plutôt en début de carrière, c'est quelqu'un effectivement d'extrêmement introverti. Donc déjà, c'est un exercice pour elle. Qu'elle n'apprécie pas. C'est très difficile quand on est très introverti, on n'a pas forcément envie. D'ailleurs, il y a un stress, une angoisse déjà de se retrouver face à des micros, de se retrouver face à des interviews, que ce soit des interviews de télé ou radio ou presse écrite. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est cette pandémie qui, quand même, on le voit, joue énormément sur le moral et le mental des joueurs et des joueuses. On voit que beaucoup en ont parlé. Diego Schwartzman, par exemple, il en a parlé plus ou moins en Australie. On voit qu'il n'est pas bien du tout depuis un moment. Dominic Thiem, c'est vrai qu'il y a la victoire à l'US Open, mais je pense que ce qui se passe actuellement n'a pas non plus forcément arrangé les choses. Benoît Paire, évidemment, également en a parlé de ses problèmes. Alors lui, il l'exprime à sa façon, mais il en a parlé également. Et là, je pense que ça joue un effet agrandissant par rapport au problème de Naomi Osaka. C'est-à-dire qu'elle y a une angoisse qui est plus forte forcément chez tout le monde depuis un an et demi de par cette pandémie. Et elle, elle a déjà cette angoisse de base de répondre à des questions. C'est quelqu'un d'introverti qui n'a pas envie de s'exprimer. Donc, quand on l'oblige à s'exprimer, c'est très difficile. Elle parle bien, je trouve qu'elle explique très bien dans ce communiqué. Je trouve qu'il est très bien ce communiqué, en fait. Évidemment, il est très attristant parce que c'est une des meilleures joueuses mondiales et on est très déçus qu'elle quitte le tournoi, mais elle explique bien les choses. Elle dit que l'anxiété est trop forte. Donc finalement, ouais, si on l'oblige, elle ne veut pas qu'on l'oblige. Elle préfère, ne peut pas jouer en ce moment si elle doit faire des conférences de presse. Ce qui veut dire que, et ça je l'avais expliqué, je l'avais plus ou moins dit par rapport à Benoît Paire, en ce moment, si des joueurs ou des joueuses ressentent des problèmes sur le plan mental, c'est une maladie. On peut avoir le droit d'avoir une maladie à un moment donné, un problème sur le plan mental. Il faut se guérir, il faut être suivi. Donc, si c'est réel, c'est un problème réel, elle le dit elle-même, elle va se mettre un petit peu en dehors du circuit pendant quelques temps, le temps d'aller mieux. Elle va probablement faire une thérapie, elle va probablement en tout cas essayer d'en faire une, essayer d'aller mieux. Et je crois que ce sera peut-être le cas pour plusieurs joueurs et joueuses qui ont des problèmes par rapport à ça depuis un an et demi. Alors, avec le caractère qu'on a, ceux qui sont très extravertis, avoir beaucoup moins de problèmes évidemment avec la presse, mais ceux qui sont très introvertis, ça va leur poser ce problème. Donc,
Camille, hier, toi, tu avais tu disais, toi, Camille, hier, que voilà, hier, on était dans l'optique de se dire il faut l'exclure. On a l'impression que là, elle a retourné la situation en disant bah, vous pouvez m'exclure, mais en fait, moi, je vais partir avant parce que je suis vraiment mal. Et comment, toi, du coup, tu réagis aujourd'hui à ça?
Moi, je suis tout simplement dépitée parce que pour moi, Naomi Osaka, c'est la star qu'on attend depuis un moment dans le tennis féminin. Et qu'elle est en train de se tirer une balle dans le pied, parce qu'il faut quand même arrêter, faire une conf de presse, c'est juste pas quelque chose de terrible à vivre à ce point-là. Il y a une espèce de dramaturgie qui est juste absurde à mon sens.
Mais elle n'est pas bien en ce moment, c'est pour ça. C'est parce qu'elle n'est pas bien en ce moment. Elle a un problème mental en ce moment.
Non, mais
en plus de son...
on a tous des problèmes personnels. À un moment, on va tous en conf de presse. On peut répondre à deux questions bateau et rentrer au vestiaire. Enfin, il y a un moment où c'est juste absurde et qu'elle se met dans une position de victime, alors que c'est quand même une joueuse qui a gagné des grands chelems, qui a un mental de championne. Et là, on a l'impression qu'elle est fragilisée par des questions qui l'embêteraient. Enfin, je n'arrive pas à comprendre. Et après, elle avait montré effectivement par le passé, après sa première victoire à l'US Open, des difficultés mentales, mais je la trouvais plutôt de mieux en mieux ces derniers temps, en assumant son statut. Enfin, elle était plutôt en train de progresser. Et là, on a l'impression qu'elle se tire une balle dans le pied toute seule. Je pense surtout qu'elle a juste envie d'imposer une nouveauté, c'est « je ne veux plus être comme tous les autres depuis X années ». Bon, je ne veux pas qu'on m'impose une conf de presse. Et comme elle voit que ça ne passe pas, elle se dit bah, « je ne joue pas », mais elle se prive d'un des plus beaux tournois du monde.
Bah, oui, mais elle s'assoit quand même sur un tour du Grand Chelem. Ça prouve qu'il y a vraiment un vrai problème derrière. Moi, je pense qu'il y a quand même un vrai problème chez elle. Elle ne s'assoit pas comme ça.
On aimerait tous avoir des problèmes comme ça, Bertrand. J'adore.
On ne sait pas ce qu'elle a.
Communiqué, pour aller dans ton sens, Camille, elle évoque l'idée d'essayer de trouver des nouvelles voies pour communiquer différemment, etc.
Ça marque le coup qu'un mal-être psychologique, moi. Honnêtement, Bertrand,
après, il faut voir. Elle dit qu'elle a ce problème.
Je tape du poing, j'ai mes convictions. Et si je peux faire changer les choses, bah, tant pis, je rate Roland-Garros. Peut-être. Moi, ouais, je le ressens comme ça.
Surtout, moi, je ne voudrais pas qu'on mélange tout non plus. C'est-à-dire que la pandémie qu'on vit depuis un an et demi soit. Elle est difficile à vivre pour beaucoup de gens, bien au-delà du monde du tennis. Mais franchement, je comprends que pour beaucoup de joueurs et de joueuses sur le circuit, ce soit très compliqué. Pour plein de raisons, les quarantaines, les huis clos, etc. Ok, ça, on peut tous le comprendre.
Ça n'a rien à voir avec les confs de presse.
Mais voilà, c'est-à-dire que pour moi, on parle là, tout à l'heure, Bertrand, tu parlais de Dominic Thiem, de Diego Schwartzman, de Benoît Paire, il y a Gilles Simon aussi qu'on a parlé. Mais enfin, il y a un cas quand même très spécifique là, avec Naomi Osaka et cette histoire de conférence de presse. Moi, je n'ai jamais entendu un autre joueur ou une autre joueuse se retirer d'un grand chelem parce que il préfère ne pas jouer que de répondre à des questions en conférence de presse. Là, on est dans une situation qui, par son côté extrême, est quand même assez sidérant, quoi. Donc, c'est difficile pour tout le monde, mais là, il y a un cas très spécifique et c'est pour ça que je ne vois pas beaucoup de solutions pour Naomi Osaka, parce que on ne va pas supprimer du jour au lendemain les confs de presse pour Naomi Osaka. S'il y a des changements à faire, peut-être discutons-en tous ensemble, médias, organisateurs, représentants des joueurs, ATP Tour, WTA, aucun problème.
Elle s'excuse auprès de tout le monde, elle s'excuse auprès des journalistes, auprès de l'organisation, auprès des organisateurs. Elle dit bien que ce problème vient d'elle. Justement, cette décision montre bien.
Elle dit aussi que le changement dérange. Enfin, elle mélange un peu les genres quand même dans sa façon de communiquer.
Ce qui est dommage, c'est qu'on en parlait dans le podcast hier, c'est qu'on a l'impression que Gilles Moreton et Guy Forget ont essayé de tendre la main, de faire un premier pas. Elle leur a opposé une fin de non-recevoir. Peut-être qu'elle aurait pu leur parler, leur dire clairement la chose, leur dire écoutez, voilà, je crois qu'elle avait pas envie,
elle n'avait pas envie de discuter, là, en tout cas.
Oui, mais ça, ce n'est pas forcément une bonne chose.
Bah, il faudra bien discuter à un moment donné. Sinon, on ne va jamais s'en sortir de cette histoire. En tout cas, elle ne va pas s'en sortir.
Oui, mais peut-être qu'elle a mis le point, elle a mis le doigt sur un problème mental. Encore une fois, quand on est malade, si on a une maladie mentale, à un moment donné, on doit s'arrêter, on doit se faire arrêter, on doit voir un médecin, se faire arrêter et reprendre quand on est apte. Mais je crois que c'est ça qu'elle dit aujourd'hui dans son communiqué, qu'elle ne se sent pas apte tout simplement à jouer dans les conditions actuelles. Parce qu'elle a un problème avec lequel to cope with, elle mérite un problème avec lequel elle doit faire depuis plusieurs mois. Peut-être qu'elle n'en parlait pas avant, tout simplement aussi, qu'elle va de plus en plus mal, que son anxiété est de plus en plus grande, que son côté introverti est de plus en plus grand et qu'elle ne peut plus. Moi, je comprends éventuellement qu'elle ne puisse plus. Je comprends ça.
Pour une histoire de conférence de presse, tu comprends qu'une joueuse s'arrête de jouer.
Je comprends qu'elle ne puisse plus. C'est-à-dire qu'elle dise « j'arrête pour l'instant, j'arrête de jouer parce que je ne peux plus dans ces conditions. Parce que voilà, j'ai tel ou tel problème mental. Moi, je ne suis pas son médecin. On ne sait pas quel est son problème actuellement sur le plan médical. Il y en a peut-être un, parce qu'elle a visiblement, elle parle quand même de problèmes depuis un petit moment sur le plan mental. Donc, je peux comprendre. À partir du moment où c'est elle qui prend cette décision, elle la prend parce qu'elle estime qu'elle n'est plus capable en ce moment sur ce Roland-Garros de jouer. Voilà, donc,
la prend parce qu'elle voit qu'elle était un peu dans une impasse et qu'elle est compliquée à gérer.
Moi, je trouve que son communiqué, je le trouve bien et il me rassure un peu finalement par rapport à elle a dit elle-même qu'elle était maladroite sur la première version, qu'il ne faut pas parler de santé mentale à la légère. Et justement, donc, elle explique qu'elle n'en a pas parlé finalement à la légère, mais qu'elle a mal expliqué les choses. Et je trouve que là, elle explique bien les choses. C'est extrêmement triste, mais je crois oui que je peux commencer à comprendre ce qui se passe en elle.
Voilà pour cette première partie. Nous allons passer désormais à la question qui fâche. Dans cette deuxième partie, on va évoquer la question qui fâche sur les night sessions. Pour tout vous dire, on a été interpellé par un fidèle du hashtag Home of Tennis sur Twitter, Xavier Damour, qui nous a proposé de faire un débat sur les night sessions. Est-ce qu'il est judicieux de les maintenir dans ces conditions-là? Les conditions, on le répète, du couvre-feu à partir de 21h. Alors évidemment, contractuellement, c'est difficile de ne pas les maintenir. On rappelle que les night sessions ont été mises en place cette année avec le nouveau diffuseur. Donc, tous les soirs, un match à partir de 21h. En revanche, avec zéro public, est-ce que ces night sessions ne risquent-elles pas de faire un flop? Camille, qu'est-ce que tu en penses?
Ça, c'est sûr que ça va faire un flop. On ne peut pas voir les choses autrement. En fait, la night session fait rêver à partir du moment où c'est un spectacle. Là, ce n'est pas le cas. Après, je pense qu'il faut se dire que c'est déjà extraordinaire qu'on arrive à jouer en tournoi. On n'oublie pas la situation actuelle. En fait, on a tellement envie de reprendre les choses normalement, de s'éclater, de venir au stade, qu'effectivement, on a peur de ce flop. Je pense qu'il faut se dire, allez, encore une année à tenir. Et l'année prochaine, ça y est, on aura les vrais night sessions. Après, ça soulève le problème de ce découpage de droits qui fait qu'à un moment, ça nous lie. Il se passe quelque chose comme une pandémie. Eh bien, on n'a pas du tout de liberté face à un changement de programme. Donc, ça, c'est un autre débat qu'on fera demain. Donc, effectivement, dès qu'on, comme ça, on segmente, eh bien, derrière, on ne peut rien changer. C'est peut-être le problème actuel des droits télé. Mais si Amazon n'a pas justement ses night sessions, c'est tout ce qu'elle a pris dans son package. Donc, c'est tout à fait logique de les maintenir. Ça serait impossible à l'heure actuelle.
Ça, on est d'accord. Après, c'est pour les joueurs, c'est qu'il y a quand même une différence. C'est qu'il y en a certains qui jouent devant des publics, d'autres pas. Djokovic en a parlé aujourd'hui en conférence de presse en disant « Ah, je ne savais même pas qu'il y avait un couvre-feu à Paris à partir de 21h. Donc, en gros, ça veut dire que je vais jouer avec personne devant moi demain. » Il a fini par dire quand même « J'espère que je vais passer un tour et que le prochain, au deuxième tour, j'aurai du public. »
Non, mais Djokovic, il est pas dans les négociations télé, des droits télé, je crois. Donc, il n'est pas autour d'une table pour discuter de ça. Donc, je comprends tout à fait son point de vue. Mais la question, elle est vite répondue, pour prendre cette expression que je n'aime pas du tout, Adrien, puisque il y a de nouveaux droits télé qui ont été signés, si je ne m'abuse, à l'été 2018.
Mais sur les droits, on est d'accord. Sur les droits, on est d'accord, mais c'est pas un flop quand même.
C'était signé à l'été 2018. Donc, à l'été 2018, il n'y avait pas de pandémie. Il y a un nouveau diffuseur qui a des night sessions à diffuser. Il y a donc des horaires à respecter par rapport aussi à l'autre diffuseur. Malheureusement, il y a une pandémie. Il y a des choses qu'ils font qu'il ne peut pas y avoir de public, mais ils ne peuvent pas retoquer le contrat. Ou alors, il faut redire aux parties,
on est d'accord là-dessus.
Parties, la direction du tournoi, France Télévisions et Amazon, on se remet autour d'une table, on rediscute et on refait les lots différemment à cause de la pandémie et on re-signe un autre contrat. Mais sinon, le contrat actuel, et les joueurs peuvent très bien le comprendre, ça ne sera pas le cas, ça ne peut pas être le cas. Donc forcément, c'est extrêmement décevant, comme l'a dit Camille, mais on ne peut pas faire autrement. Donc il faut l'expliquer aux joueurs. Il faut l'expliquer aux joueurs.
On est tous d'accord que ça sera un flop parce que ce n'est pas l'image qu'on a de Night Session, mais que dans cette situation de pandémie, eh bien, il faut se satisfaire de peu jusqu'à ce que ça change. C'est ce que c'est ton point de vue.
Laurent, tu es d'accord ou pas avec ces Night Session, toi?
Je suis d'accord, c'est-à-dire. Non, moi j'adore.
Tu vois comment elles te font vibrer ces night sessions ou...
Moi j'adore les night sessions, même si je pense que rien n'égalera jamais les night sessions de l'US Open, parce que c'est l'ADN du tournoi et de la ville. Voilà, c'est New York, c'est la ville qui dort jamais, et jouer jusqu'à 1h, 2h, 3h du mat à New York avec une ambiance très particulière, c'était vraiment l'ADN pour moi de l'US Open. Moi j'adore les night sessions. Ce que je trouve vraiment terrible, c'est que là, c'est un peu la double peine, en fait, pour ceux qui vont jouer le soir. Parce que potentiellement, ils vont finir peut-être, s'ils font un match de 4h, 4h30 à 1h, 2h du mat, et sans avoir connu le grand frisson des night sessions. Parce que Iga Świątek, qui en a parlé aujourd'hui, elle disait qu'elle n'a pas une grande expérience des night sessions parce qu'elle est jeune, mais elle disait que les quelques night sessions qu'elle a fait, notamment à Melbourne, ou à l'US, je ne sais plus de quel temps elle parlait, mais elle disait que parfois, le soir... Bah, quand on joue à 10h, 11h le soir, on est physiquement, c'est compliqué, mais qu'on puise l'énergie dans la foule. Et que c'est vraiment le public qui vous permet de vous transcender.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Et peut-être même d'avoir plus d'énergie que dans un match en journée, parce que le public agit différemment aussi en night session. Voilà, c'est une atmosphère complètement différente. Donc là, ça va être un peu la double peine. Et c'est pour ça que je comprends ce que dit Djokovic. Et c'est vrai que jouer sans public, c'est vraiment horrible. Mais by night, je pense que c'est encore pire qu'en journée.
Mais oui, mais c'est les diffuseurs qui font le tournoi, malheureusement.
Ah et non, donc, mais ça, je ne dis pas le contraire. C'est la faute de personne.
Le nouveau diffuseur n'aurait pas pu accepter et dire « Ok, on fait un quatrième match. Nous, on fait le quatrième match du central, mais on le fait en day session. » Alors qu'ils avaient en même temps, ils ont le cours Simone Mathieu et que ça faisait éventuellement deux matchs en même temps et qu'ils n'ont qu'une antenne. Enfin voilà, donc c'était pas possible, malheureusement.
Et maintenant, dans les négociations de droits, il faudra prévoir un alinéa.
Pandémie, oui. Comme l'a fait Wimbledon avant la pandémie.
Pour conclure sur ce sujet, c'est quand même l'ironie de l'histoire, c'est quand même le numéro un mondial vient à Paris et aucun spectateur ne pourra le voir pour son premier match.
Le premier match, oui, bah, il le verra plus tard.
Hein. Vu ce qu'il a dit, je suis pas sûr qu'il fasse beaucoup de night session en première semaine.
On est d'accord.
Je vois mal perdre contre Sandgren au premier tour, même sans public.
Et on passe désormais à la stat de Constance. La stat de Constance, c'est tous les jours une statistique exclusive de Constance du compte Twitter Je 7 et Mat. Aujourd'hui, c'est une stat qui concerne Daniil Medvedev avant son premier tour. C'était la première fois dans l'ère Open qu'une des deux premières têtes de série de Roland-Garros est occupée par un joueur qui n'a jamais remporté le moindre match porte d'Auteuil. Daniil Medvedev s'est en effet incliné dès son entrée en lice lors de ses quatre premières participations. Et moi, je vais vous demander maintenant contre qui il s'est incliné lors de ses quatre premières participations.
Que des Français, presque. Non,
presque que des Français, c'est vrai.
Chardy.
Benjamin Bonzi. Non, Bonzi.
Bon, je dis en 2017.
Herbert en 5-7 alors qu'il menait 2-7-0.
C'est ça, en 2019.
Chardy, donc, je redis troisième fois. Non, il n'y a pas Chardy.
Chardy.
D'accord, bah, c'est vrai aussi.
Retente-le quand même une fois, Bertrand.
Chardy, non.
Chardy.
Non, pas Chardy, ça ne marche pas. Avec Camille, tu tentes.
Camille Pain, peut-être.
J'avais dit Bondy, mais j'ai l'impression que vous avez tous regardé.
Non, ils les auraient.
Non, Camille, non.
Il y a que Laurent.
Bon, il y avait Lucas Pouille en 2018. Et en 2020, ouais. Quand même, 2020, contre qui il a perdu le...
Ah oui, 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 oui.
Ah oui, non.
Si.
Ah,
terrible.
Alors, certain Marton.
Ah, Fuksovic, oui, tout à fait, absolument, je m'en rappelle.
Ouais, en 4-7. Et là, il a remédié à cette anomalie en battant lundi Alexander Bublik en 3 manches, 6-3, 6-3. 7-5.
Une bonne victoire.
Il avait tweeté il y a quelques semaines que dans les 50 prochaines années, il espérait bien gagner un match à Roland-Garros. Donc aujourd'hui, il a tweeté après cette victoire. History is made. Donc l'histoire est faite parce qu'il a gagné un match. Et rappelons aussi sa petite signature sur la caméra aujourd'hui, qui est quand même très drôle. I love Clay. Je pense que c'est quand même. Il s'amuse beaucoup de ça. Et du coup, je pense qu'il est hyper détendu dans ce tournoi et que ça va peut-être l'aider parce qu'il arrive sans ambition et en rigolant de son niveau sur Terre. Donc, c'est plutôt sympa, je trouve.
Et surtout, il faut qu'il arrête de s'auto-persuader qu'il est nul sur Terre. C'est un joueur qui a fait des demi-finales, au moins une, en tout cas en Masters 1000. Donc, ce n'est pas sa surface préférée, clairement, mais il sait jouer sur Terre battue. Il est capable, en tout cas, de faire beaucoup, beaucoup mieux que ce qu'il a fait ces derniers temps.
Oui, mais là, il s'enlève de la pression quand il dit qu'il est nul sur Terre et qu'il espère gagner au moins une fois un match dans sa carrière à Roland-Garros. Ça,
c'était une boutade. Mais ça, il l'avait dit au mois de décembre, l'histoire. C'était suite à un tweet, je crois, du compte We Are Tennis qui avait mis une vidéo de conf de presse de Nadal où Nadal était vieilli. Et le tweet, c'était, voilà, on est en 2050, 34e victoire de Nadal à Roland-Garros. C'est ce tweet-là que Medvedev avait cité en disant, d'ici là, j'aurais peut-être, moi, gagné un match à Roland-Garros.
C'est tout un débat lorsqu'un joueur n'arrive pas à jouer sur terre battue. J'en sais quelque chose. C'est que quand même, c'est pas que mental, c'est que son jeu, c'est vrai, n'est pas optimal sur terre battue. Il a un jeu
je suis d'accord.
Il a une balle qui plonge, donc en fait, qui ne gêne pas, qui gêne sur surface rapide parce qu'elle reste basse. Et sur terre, elle arrive à bonne hauteur. Donc, il coupe les trajectoires avec les faux rebonds, c'est compliqué. Donc, ce n'est pas non plus un mythe dans sa tête qu'il s'est créé. Donc, effectivement, son jeu est moins efficace. Mais au-delà de ça, de faire que des premiers tours, c'est quand même pas normal non plus.
Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que je ne dis pas que Daniil Medvedev doit être en demi tous les ans à Roland. En revanche, qu'il ne gagne pas un match en 4 ou 5 tournois, il y a un truc qui ne va pas.
C'est logique si ça avait continué pour le coup.
Ouais. Puisque tu as pris ton exemple avec beaucoup d'humilité, Camille, il faudrait peut-être faire un débat un jour. Pourquoi les Français sont quand même pas très bons sur terre battue alors que c'est la surface de notre grand chelem? Les Anglais, ils ont eu longtemps peu de joueurs, mais les seuls qui étaient à peu près corrects, ils arrivaient quand même à jouer à peu près sur gazon, passer un tour, deux à Wimbledon, même dans leurs pires années. C'est dommage qu'en France, on n'ait pas des joueurs qui soient élevés sur terre battue, un peu comme en Espagne, alors que notre grand chelem est sur terre battue.
J'ai l'impression qu'on aura le temps de faire un débat là-dessus.
Oui, c'est ce que je dis, il faut faire un débat là-dessus.
Bon, je te répondrai un autre jour, Bertrand.
Exactement, le jour du débat.
Oui, mais il y a le fait d'être un joueur de terre battue et d'être un joueur de Roland-Garros. Pour moi, le bon exemple, c'était Joe Wilfried Tsonga, qui n'était pas un joueur de terre battue, mais qui a fait une carrière remarquable à Roland. Et je me souviens en 2015, quand il va en demi, qui perd contre Wawrinka. Cette année-là, il fait vraiment rien sur terre, Joe, avant d'arriver à Roland. Mais en revanche, il disait que voilà, quand il était à Roland-Garros, il avait... d'autres sensations que dans d'autres tournois sur terre battue.
Surtout la surface est plus rapide à Roland que quand vous jouez à Hambourg ou à Monte-Carlo sous la pluie.
On a eu l'impression parfois que si Roland-Garros avait lieu sur gazon, ça serait pas mal. Pour les Français, ils étaient quand même souvent meilleurs sur gazon et ils se régalaient dès qu'on arrivait sur gazon, alors que sur terre battue, c'était dur.
Et Wimbledon sur terre battue, alors.
Là, c'est pas gagné. Alors, ça dit, c'est un peu la terre battue en deuxième semaine.
Ouais, surtout au fond du court maintenant. Ouais.
Bon, de la terre battue, il y en a encore demain. On va évoquer désormais l'affiche du jour. L'affiche du jour concerne un duel 100% tricolore entre Hugo Gaston, 141e joueur mondial, et Richard Gasquet, 53e joueur mondial. C'est la première confrontation entre les deux Français. Hugo Gaston, on se souvient de son parcours en 2020 qui avait ébloui, qui avait donné un éclat à ce Roland. Il avait éliminé Wawrinka en 5-7, on se rappelle, avant de tomber contre Thiem au tour suivant, également en 5-7. C'est un peu l'affiche qu'on a envie de voir sur le Suzanne Lenglen mardi. Camille ?
On a envie de voir ce duel parce que c'est la jeune génération face à la sortante, sans offusquer Richard. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que Richard a quand même pas mal joué au tournoi de Lyon. J'ai eu l'occasion de le voir jouer. Il a encore beaucoup de choses dans la raquette. Est-ce que physiquement, face au tout jeune Gaston qui va le faire travailler à souhait avec ses amortis de rêve dont il a fait merveille l'année dernière, est-ce que le niveau de Richard va pouvoir être tenu dans la durée? Mais il y a ce duel de génération, mais aussi de style de jeu et puis de capacité physique. Donc oui, on a envie de voir ce que ça va donner entre ces deux jeunes joueurs.
35 ans d'un côté pour Gasquet, 20 ans de l'autre pour Gaston. Laurent, toi, tu vois quelle clé dans ce match?
J'en vois deux. La première, c'est le physique de Richard Gasquet. Je suis d'accord, c'est vraiment une grosse interrogation. Est-ce qu'il va être capable de tenir si le match devait durer, par exemple, 3h30 ou plus? Et l'autre, c'est quand même la façon dont va se comporter Hugo Gaston, qui revient à Roland-Garros. Après ce qu'il a fait l'année dernière, on a souvent connu ça avec des Français qui faisaient un très grand Roland. Alors, un très grand Roland, c'est pas forcément aller en demi-finale, hein. Ça pouvait être battre un top joueur même en allant au troisième tour, on a connu ça. Et le danger après, c'est de se retrouver un peu prisonnier de ce type de performance. Et comment va réagir Hugo Gaston, comment il va se comporter, je sais pas. Est-ce qu'il va être très tendu parce que c'est très paradoxal, il est 140e mondial, il joue sur le circuit Challenger 90% du temps, et sauf qu'il y a forcément une forme d'attente, même de façon injuste et déraisonnée, il y en a une. Parce qu'il nous a émerveillé l'année dernière et qu'il n'est pas allé en 8e en jouant des petits joueurs, donc, et qu'il n'a pas pris 3 petits sets contre Dominic Thiem, même si ce n'était pas le grand Dominic Thiem. Donc voilà, c'est deux interrogations de nature différente. Si chacun répond positivement, je pense que j'ai quand même moins envie, on n'est pas encore au prono, mais de mettre une petite pièce sur Hugo Gaston.
Attends, n'en dis pas trop.
Je pense qu'il, voilà, s'il n'est pas inhibé, je pense qu'il a les moyens de gagner ce match quand même demain.
Mm-hmm. Bertrand, toi, tu seras devant ta télé pour voir ce match-là. Après, malheureusement, il y a des chances que tu ne puisses pas aller sur le stade, on ne va pas se mentir.
En fonction des heures de livreur, on verra.
Voilà, exactement.
Comment tu vois ce match-là, toi? Alors déjà, moi, je réponds à ta première question. Pour moi, ce n'est pas le match du jour. J'attends plus, enfin, ce n'est pas celui que j'attends plus. J'attends plus mon fils Ramos.
Merci, Bertrand.
Merci, mais nous, on a choisi celui-ci, voilà. Donc tu es gentil. Tu ne casses pas notre truc, merci.
Je ne casse rien, je réponds à ta question avec beaucoup d'honnêteté, parce que tu as posé la question. Donc tu dis que pour moi, ce n'est pas le match que j'attends le plus. Pour répondre sur ce match-là, d'accord avec Camille, Richard joue mieux. Richard, en fait, en ce moment, le problème, c'est qu'il n'a pas beaucoup de caisse physique. Il a été tout le temps blessé, reprise. Il a peut-être joué parfois trop tôt, mais il a envie de jouer. Il aime le tennis, il a envie de continuer, il l'a dit. C'est l'amour de ce sport, l'envie de continuer à jouer. Donc ça, c'est positif. Mais en Grand Chelem, c'est au meilleur des cinq. Donc, il faut quand même que le physique tienne. Donc, si on voit Richard gagner, c'est sur un match où il peut gagner, je pense, en 3-7, où ça ne devient pas très long. Effectivement, il n'y a pas 10 000 amortis à aller chercher tout le temps, comme Hugo sait le faire, comme il l'a fait l'an dernier, face à Dominic Thiem notamment. Mais j'ai assez confiance dans l'expérience de Richard Gasquet pour se sortir de ce match, d'autant que Hugo Gaston, il n'y a pas à refaire chaque année ce qu'il a fait l'année dernière. C'est difficile à dire, mais c'est un joueur, comme l'a dit Laurent, hein, qui est quand même sur le circuit de Challenger la plupart du temps, sur le second circuit. Il est très attendu à Roland-Garros cette année, de par ses exploits de l'an dernier, 8e. Mm-hmm. Donc forcément, c'est très difficile de confirmer quand on n'a pas, entre-temps, franchi un énorme cap au niveau du classement notamment. Donc moi, je vois Gasquet gagner en 3-7. Pardon,
voilà.
Tout de suite.
Je vois Gaston, Gasquet gagner en tout cas. Merci, Gasquet gagner.
Cela dit quand même, Gaston, c'est pas spectaculaire pour le grand public qui peut-être s'attendait à le voir arriver très facilement dans le top 100 cette année par rapport au niveau de jeu qu'il avait eu à Roland l'année dernière. Mais le niveau de jeu qu'on peut avoir dans l'euphorie sur deux matchs, trois matchs, et le niveau moyen plancher qu'il faut pour rentrer dans le top 100 et s'y maintenir, c'est pas du tout la même chose. Mais sur le circuit Challenger, il a fait des bonnes choses quand même cette année, Hugo Gaston. Donc, il avance Il avance doucement par rapport à ce qu'on pourrait attendre, mais ce n'est pas si négatif que ça pour moi, ce qu'il a fait depuis 6 mois.
Une petite question pour Camille. Un duel entre Français, très souvent, ça fait pchit, ça donne des matchs pas terribles. Ça a été le cas dans plein de générations. Pas toujours, hein. Il y a eu un Noah Lecomte, par exemple, de feu à Roland-Garros, ici, il y a de nombreuses années en 8e de finale. Mais c'est souvent le cas. Souvent, ça ne joue pas très bien. Là, le fait qu'il y en ait un d'une génération et l'autre d'une complètement autre génération, 15 ans d'écart, est-ce que ça va jouer, Camille, ou pas du tout? Parce que finalement, ils ne se côtoient pas tellement, ils ne sont pas de la même génération.
Alors, je vois ce que tu veux dire, qu'il n'y a pas de l'affect que tu peux avoir avec un joueur avec qui tu as partagé une Coupe Davis ou tu as partagé des chambres aux États-Unis dans des motels sur des Challengers. Voilà. Donc ça, c'est sûr qu'il n'y a pas ça. En revanche, il y a quand même justement le fait qu'il soit compatriote et qu'il y ait cette différence de génération. Ça doit être un petit peu plus dur quand même pour Richard que pour Hugo Gaston. Je dirais que là, c'est plus de l'ego et de la fierté, plus que le fait qu'il soit français. Par rapport à leur complicité éventuelle. Là, je suis assez d'accord avec toi. Après, je pense que Richard, de toute façon, maintenant, il est légèrement au-dessus de ça. Il n'est pas sous les projecteurs. Donc, je ne pense pas qu'il va forcément avoir une pression supplémentaire de jouer.
Ça, je ne crois pas du tout.
Voilà, je pense que ça ne va pas rentrer en compte du tout. Après, par rapport à Hugo, moi, j'avais envie de dire ou Richard en 3-7 ou Hugo en 5. Parce qu'il y a cette dimension physique, mais parfois ce qui est étonnant chez des joueurs, c'est que d'une année sur l'autre, il ne se passe rien après un exploit. Et de retour sur la terre de l'exploit, eh ben, il y a quelque chose qui se repasse. C'est très bizarre, mais une odeur, une sensation, un plaisir de revenir. Et c'est possible qu'il retrouve son meilleur tennis face à Richard Gasquet. Ça, on le saura que demain. Et comment il va réagir, mais ça, c'est tout à fait possible, ça arrive. On a vu parfois Kristina Mladenovic justement sortir des matchs incroyables alors qu'elle arrivait de X premier tour, mais parce qu'elle revenait sur un lieu qu'elle aimait bien. Donc c'est toujours très alchimiste ce genre d'analyse, mais à mon avis, il y a quelque chose à faire pour Hugo pour retrouver justement une dynamique après le Roland-Garros. Peut-être c'est ce qui lui a manqué.
D'autant que ce sera sur Lenglen, et je crois que c'était sur Lenglen qu'il avait battu Wawrinka, à moins que je me dise une bêtise, mais je crois que c'était
non,
ça.
Non, c'est vrai.
Donc voilà, je ne sais pas si ça peut jouer ou pas, mais c'est vrai que tu as raison, Bertrand, les matchs qualitativement, entre compatriotes, sont pas toujours des super matchs, mais en revanche, c'est souvent des matchs qui ont leur charme parce qu'ils sont un peu dingues, un peu bizarres, un peu étranges. Moi, je me souviens du père Herbert il y a 2 ans sur le Lenglen, qui était c'était parfois un peu... je veux dire gaguesque, c'est un peu, c'est pas le bon mot, mais voilà, c'était pas commun comme match. Et souvent, c'est ça qui donne le sel de ces rencontres-là, plus que la qualité du tennis lui-même.
Comme le match
sans Prince Agassi, pas terrible, par exemple. Hein, le match entre compatriotes,
il y en a eu des quelques-uns qui étaient plutôt pas mal. On se verra ça. On surveillera ça du coup mardi en 3e rotation sur le Suzanne Lenglen. Vous avez déjà presque tous dit vos pronos sur ce match-là. On va quand même les répéter pour être sûr, parce qu'avant ça, on va répéter quand même hier, dimanche. Camille et Bertrand, vous aviez dit Federer en 4 et Laurent Federer en 3. Donc, sur ce coup-là, c'est Laurent qui marque 3 points et vous marquez 1 point chacun.
Parce qu'il a voulu se démarquer, il voulait dire Federer en 4. Ça devrait pas
compter. Mais bon. Donc, on avait dit que c'était Laurent qui commence aujourd'hui. Honneur au gagnant de la veille. Laurent, ton pronostic sur ce duel 100% français?
Gaston en 5.
Camille?
Gasquet en 4.
Et Bertrand?
6-4, 7-5, 6-3, Richard.
Et ben voilà, comme ça c'est dit. Il prend des risques. Si c'est le bon score, tu auras 2 points de bonus supplémentaires.
Si c'est le bon score, je serais surtout dégoûté de ne pas l'avoir joué, parce que je pourrais quitter cette émission en portant en vacances aux Bahamas.
Exactement. Merci à tous. Terre débattue, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à cette émission, à nous noter également sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de podcast. On se retrouve demain pour débriefer une nouvelle journée de tennis. Ce sera Olivier Canton qui sera à ma place et Cyril Morin qui sera également dans l'émission aux côtés de Camille Pin et de Laurent Vergne, si je ne me trompe pas. D'ici là, suivez l'actu sur eurosport.fr et si vous avez le temps, n'hésitez pas à aller taper la balle. Ciao.